France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Porté à l'écran, Gary Bairi, La maison et le monde, le roman de Rabindranath Tagore, Satyajit Ray en eut le projet dès ses débuts dans le cinéma. Il en écrivit d'ailleurs l'adaptation avant même de tourner Pater Panchali, son premier film en 1955. Mais ce ne fut que sur la fin de son histoire de cinéaste qu'il acheva La maison et le monde, après avoir rencontré durant son tournage les premiers problèmes cardiaques qui devaient l'emporter en 1992. L'histoire que raconte le film se situe au début du XXe siècle, quand, pour mieux régner, l'Empire britannique joue au Bengale de l'antagonisme entre hindous et musulmans. Deux visages de l'indépendantisme indien, le plus radical et le plus modéré, s'affrontent alors à travers les personnages de deux amis représentant de la classe bengalie aisée et cultivée. Un affrontement politique et moral d'autant plus complexe et douloureusement humain qu'il se joue au centre d'un triangle amoureux. Comment le trio habituel du cinéma des cinéastes avait-il reçu à sa sortie ce film dans lequel Satyajit Ray filmait le début de la fin d'un temps du Bengale, celui de sa renaissance, dont il fut si souvent présenté comme l'héritier? C'est ce que l'on va apprendre en écoutant Claude Jean-Philippe, Caroline Champetier et Pierre Donadieu croiser leurs regards respectifs sur La maison et le monde. Un film à propos duquel Louis-Marc Aurel écrivait alors dans Le Monde qu'il était peut-être le testament spirituel de l'auteur du Salon de musique et de Charou Latta.
Aujourd'hui, émission restreinte, émission intime, nous ne sommes que trois, nous ne sommes que nos autres, à savoir Pierre Donadieu, Caroline Champetier et moi-même, pour tenter d'entrer dans ce film magnifique qui s'intitule « La maison et le monde », qui est le dernier film de Satyajit Ray et qui est un film adapté d'un roman de Rabindranath Tagore que Caroline Champetier a lu. Moi, j'avoue ne pas l'avoir lu. Pierre Donadieu, tu ne l'as pas lu non plus. Donc, elle est là pour nous dire ce qui s'est passé entre le livre et le film. Tout d'abord.
Oui, ça s'est d'abord passé, je pense, entre Satyajit Ray et Tagore, qui sont tous les deux d'une grande famille bengalie. Tagore bien avant Ray, bien sûr. Enfin, bien avant, un demi-siècle avant. Tagore était ami de la famille de Satyajit Ray. Il a été le professeur de Satyajit Ray. Et je crois que Ray était... Donc un des hommes de culture, sans, avant d'être cinéaste, les mieux placés pour parler de Tagore et pour vouloir l'adapter plus tard au cinéma. Et d'ailleurs, La Maison et le Monde est un de ses plus anciens projets, qui a toujours été repoussé pour des raisons diverses et qui finalement est clos après beaucoup de temps. Et moi, j'y vois un certain sens d'ailleurs, un sens caché.
Satyajit Ray a déjà adapté plusieurs fois Tagore, notamment dans un film qui s'appelle Teen Kenya, qui est trois sœurs en français, ou trois femmes, j'ai oublié le titre français, Charou Latta, qui est de Tagore, et il a fait aussi un film qui s'appelle Rabindranath Tagore, qui est un film sur Tagore.
Famille de lettrés, c'est peut dire, dans la mesure où le grand-père de Satyajit Ray était poète, où le dessin, la musique étaient des choses qui se pratiquaient autant qu'ils se consommaient. Quand on voit le salon de musique, par exemple, à travers la maison et le monde, on comprend un peu mieux le salon de musique et on comprend un peu mieux ce que pouvait être l'obsession de la musique pour ce Maharaja, cette sorte de prince bengali, maître de son domaine, comme l'est Nikhil, le héros de la maison et le monde. Mais il se trouve que cette maison dans laquelle nous fait entrer le film, Satyajit Ray n'a aucun problème pour imaginer le mobilier, pour en imaginer les rites, pour imaginer la façon d'être de Nikhil, puisque Nikhil, Satyajit Ray, que Tagore correspondent à un moment de la culture. Enfin, je ne fais là que réciter Malson, mais il faut le savoir quand on pense au film. Un moment privilégié de la culture au Bengale, qui correspond à ce qu'on appelle la Renaissance bengali. Alors, il y a un premier point qui est très important. Pierre Donadieu, tu as eu la chance, comme moi, l'année dernière, de rencontrer Satyajit Ray et même de traduire ses propos pour le cinéma des cinéastes.
On peut dire d'ailleurs que quand on rencontre Satyajit Ray, on a l'impression de rencontrer un prince indien, véritablement.
Et en même temps, un gentleman. C'est ça, au sens le plus britannique du terme. C'est-à-dire que, très visiblement, cette renaissance bengali, qui correspondait à une renaissance de la culture bengali, était en même temps accompagnée d'un très grand respect, même d'une sorte de courtoisie. Il y avait une espèce d'assaut de courtoisie entre la culture britannique et la culture bengali ancienne, de telle sorte que Ray, par exemple, nous a dit, à notre surprise, je me rappelle de lui avoir posé la question, qu'il n'y avait pour lui aucune espèce de contradiction entre le voyage rituel à Londres qu'accomplissaient ces jeunes lettrés bengali aux alentours de 1900, et Satyajit Ray, lui, à son tour, a fait le même voyage rituel à Londres à un certain moment de sa jeunesse. Il n'y a aucune contradiction entre le voyage rituel à Londres et la pratique et des arts indiens, du chant, de la poésie, du dessin. Satyajit Ray a d'abord été dessinateur et il n'était pas le premier dans sa famille à dessiner. Je crois que sa tante était également dessinatrice. Donc on se trouve devant quelque chose qui est réellement de la culture, puisque la culture, c'est autant, notre émission s'intitule Le cinéma des cinéastes pour cette raison précise, c'est que la culture, c'est autant de lire que d'écrire, c'est autant de filmer que de regarder des films. Et Satyajit Ray appartient bien à cette culture-là, qui est une culture de la pratique autant que de l'écoute.
Sa culture et la culture des autres, c'est ça l'homme cultivé, en fait. Et ce qui est étonnant dans ce renouveau bengali, c'est la façon dont il avait réussi à engranger, à digérer une certaine somme de culture occidentale pour en ressortir la profondeur de sa propre culture.
Voilà, oui.
Parce que c'est ça le renouveau bengali, c'est une renaissance nationaliste, en tout cas d'un sentiment et d'une culture nationaliste en face d'une occupation étrangère, mais en face duquel on a un rapport d'homme cultivé. C'est-à-dire qu'on prend ce qui peut être positif dans la culture.
Toutes les colonisations ne sont pas semblables. Enfin, le peu que je sais de la colonisation anglaise aux Indes nous révèle un paysage mental, aussi bien du côté anglais que du côté indien, extrêmement différent du paysage mental qui est celui des Espagnols par rapport à leurs anciennes colonies ou des Français par rapport aux leurs. Il semblerait bien que entre les deux sentiments aristocratiques de la vie, le britannique et le bengali, pour en rester au Bengale, il semble bien que des deux côtés il y ait le même sentiment aristocratique de la vie et la même idée que la civilisation est première. C'est ce qui nous amènera sans doute à la conclusion de cette émission. Voilà. Alors maintenant, Caroline, vous avez lu le roman et vous l'avez lu cette semaine.
Oui.
Alors, je voudrais qu'on parte quand même de l'aspiration première, c'est-à-dire du roman.
Elle est première, mais je ne suis pas certaine que dans le film tel qu'il est, c'est-à-dire après toutes ces années d'exercice du cinéma qu'a eu Satyajit Ray, le roman soit toujours premier. Je crois que la vie cinématographique de Ray, sa rencontre avec Renoir, bouscule ce qui pourrait être la première émotion ou la première impression qu'il a eue sur ce livre. qui est un livre, quand je l'ai lu, qui m'a absolument étonnée, parce que c'est un livre non pas à la première personne, mais aux trois premières personnes des personnages qui constituent cette histoire, c'est-à-dire il y a le récit de Bimala, et d'ailleurs la table des matières est très belle, elle a quelque chose d'un livre religieux, puisque elle s'intitule de cette manière-là, chapitre 1er, récit de Bimala, chapitre 2, récit de Bimala, récit de Nikhil, récit de Sandip, chapitre 3, récit de Bimala, récit de Sandip. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un récit, une litanie, une première personne qui prend sa place et qui prend sa voix. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui est absolument renoirien, quoi. L'idée que chaque personnage, chaque caractère a ses raisons.
Autrement dit, dans le film, il n'y a plus la voix de Nikhil et la voix de Chandip qui parle dans le livre.
Non, le fait que les choses soient vues par, et que le cinéaste doit voir font qu'il a été obligé de réduire cette voix à celle de Bimala. Mais je considère que les trois personnages gardent absolument leur raison. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir trois voix off dans le film, ce que Satyajitray n'a pas fait, parce qu'il a cette conscience du cinéaste qui voit avec son regard de cinéaste. Donc il réduit ça au personnage de Bimala et à la vision de Bimala sur deux hommes. C'est normal qu'il ait pris le cœur du récit, enfin le cœur d'ailleurs qu'on s'arrache. Mais je trouve que les personnages gardent chacun une force positive très, très réelle.
Bon, alors résumons le roman et résumons le film. De ce point de vue, du point de vue de la narration, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différences.
Non, ça commence là où le film commence et ça finit là où le film s'arrête.
Alors, il s'agit d'un jeune, on peut dire un Maharaja. Enfin,
oui, on dit un Raja.
On dit un Raja. Ouais. C'est un jeune Raja, Nikhil, qui baigne absolument dans le climat que nous venons d'indiquer, et qui donc épouse une jeune femme qui est Bimala dans la tradition, puisque ils ne se sont pas choisis, c'est un mariage arrangé. Moyennant quoi, il éprouve le besoin de lui faire apprendre l'anglais.
De
lui donner des cours de chant avec une maîtresse de chant.
Préceptrice, pratiquement.
Une maîtresse de chant anglaise. Et il prend le risque de lui faire passer le couloir, qui est un couloir sacré, entre la maison et le monde. C'est-à-dire, elle sort du gynécée, c'est comme ça qu'on dit.
Non, on dit le pourda.
Le pourda.
Le pourda, c'est l'écran, c'est la réclusion des femmes dans le zanéna. C'est le terme culturel. Et l'endroit, c'est le zanéna. Et la page est très très belle. Mon mari désirait vivement me faire sortir du pourda. Un jour, je lui dis, qu'ai-je à faire avec le monde extérieur ? Le monde extérieur peut avoir affaire à vous, répondit-il. Si le monde extérieur s'est passé de moi si longtemps, il peut bien s'en passer quelque temps encore. Il ne risque pas d'en mourir. Je me moque bien qu'il périsse. Ce n'est pas là ce qui m'inquiète, mais je songe à moi-même. En vérité, parlez-moi de vous-même. Il se tut et sourit. Je connaissais ce silence souriant. Non, non, protestai-je. Vous ne m'échapperez pas ainsi. Je veux vider cette querelle entre nous. Peut-on jamais rien terminer par des mots ? Ne parlez pas par énigmes. Dites-moi. Ce que je désire, c'est que nous nous appartenions plus complètement devant le monde. C'est en cela que nous avons encore une dette l'un envers l'autre. Notre amour est donc imparfait entre les murs de la maison. À la maison, vous êtes comme enveloppé par moi. Vous ne pouvez savoir ni ce que vous possédez, ni ce qui vous manque. Je ne puis supporter de vous entendre parler de la sorte. Je voudrais vous voir avancer jusqu'au cœur du monde extérieur, pour y rencontrer la réalité. Vous n'êtes pas faite pour vivre toujours dans le monde des conventions et des soins ménagers. Il faut que nous nous rencontrions, que nous nous connaissions l'un l'autre dans le monde véritable, pour que notre amour aussi soit véritable. S'il y a vraiment ici quelque empêchement à notre amour, je n'ai plus rien à dire. Mais quant à moi, je ne sens rien qui me manque. Eh bien, si l'empêchement n'existe que pour moi, pourquoi n'aideriez-vous pas à le supprimer ?
Bon, très bien. Alors, c'est la conversation que je reconnais, d'ailleurs, qui est dans le film, et qui est le moment où Nikhil convainc Bimala, donc, d'aller vers le monde extérieur.
Non, c'est bien avant Claude. Ça se passe sur le bateau. Ça se passe juste après ce générique extraordinaire, ravagé par le feu. Ils sont sur un bateau. Il n'y a pas de hasard à ce qu'ils soient d'ailleurs sur l'eau, sur quelque chose, sur le courant. J'ai forcément pensé à Renoir aussi et au fleuve à ce moment-là. Et elle est dans la petite cabine du bateau. Et lui, à ce moment-là, lit un livre en anglais, lui lit un passage.
Ah, voilà, c'est ça. C'est la...
Lui explique ce que veut dire. C'est un poème d'amour. Elle dit si de. Autant de mots pour si peu de choses, en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a dit quel va être son chemin, d'une certaine manière.
Voilà, alors, elle accomplit ce chemin. Non, il n'est pas question de déflorer le film. Au bout de ce chemin, il y a un autre homme qui se trouve être un leader, un militant nationaliste bengali, qui est un ami de Nikhil.
Ami d'enfance.
Son ami d'enfance, qui, lui, n'est pas d'extraction noble, mais qui a beaucoup de talent, qui a un talent d'orateur et même probablement un talent de poète et de chanteur, et qui exerce un ascendant sur les foules qui sont pendues à sa parole, qui exercera un ascendant sur Bimala puisque ses convictions l'emporteront sur les prudences de Nikhil, et que au-delà de la chaleur de ses convictions, il y a la chaleur de ses propres empressements amoureux qui feront que Bimala lui tombera littéralement dans les bras. Alors voilà pour le sujet. Maintenant, le film. Alors,
oui, il y a quand même derrière ça le fait que ce pays avance lentement vers la guerre civile entre les hindous et les musulmans.
Oui. Oui, c'est-à-dire à travers le fait que... Alors, l'enjeu politique, à proprement parler, entre Nikhil, qui est donc le Raja, et Sandeep, qui est le leader nationaliste, il y a le fait que Sandeep souhaite à tout prix... contraindre les Anglais à partir, et compte tenu du fait surtout que les Anglais font tout pour séparer les populations
hindoues-musulmanes.
Hindoues des populations musulmanes. Et la réaction de Sandeep, c'est de demander aux paysans de boycotter les produits anglais, de ne plus acheter de produits anglais, ce qui paraît tout à fait logique, mais qui se heurte à une réalité. C'est-à-dire qu'il se heurte à la réalité que connaît Nikhil, c'est que cette réalité est extrêmement simple, c'est que les pauvres seront victimes de ce boycott, seront les premières victimes de ce boycott, ce que ne seront pas les riches, mais parce que les produits anglais étant moins chers que les produits locaux, les pauvres seront encore plus pauvres, et Nikhil ne peut pas prendre la responsabilité immédiate de rendre les pauvres de son domaine plus pauvres encore, et... Alors que Sandeep, comme tous les militants que nous avons vus de toutes les générations de militants depuis que militants il y a, voit plus loin que l'immédiat. Il est prêt à sacrifier l'immédiat en fonction d'un avenir. Et voilà. Alors.
Il voit plus loin et plus court à la fois.
Absolument, oui. Ce film m'a terriblement intéressé à cet égard. C'est-à-dire que là, on voit, autant que je me souvienne de mes jeunes années à l'époque où j'étais. Je pense militant trotskiste, c'est-à-dire que ça remonte à 30 ans, et autant que, au-delà des idées qui pouvaient être les miennes, et qui étaient l'idée de « on ne fait pas de révolution sans casser deux », Robespierre, la terreur, l'utilité de la terreur, etc., etc., donc la fin justifie les moyens, toute la problématique des mains sales, etc., autant que je me souvienne, ces idées... était génératrice d'une passion qu'au fond je goûtais pour elle-même. Autant que je me souvienne de mes propos d'adolescence et de passion. Or, on voit bien, là, de ce point de vue-là, le personnage de Sandeep est admirable, parce que la passion qu'il y met, il a exactement le même regard quand il proclame ses idées, quand il harangue le peuple, quand il presse d'amour Bimala, et quand il voit s'écouler soudain d'une bourse rouge un flot de pièces d'or. C'est-à-dire que la passion a toujours le même regard. Et c'est là qu'on comprend soudain l'incompréhensible quand on parle de l'incompréhensible, du point où ont été certains, la question de Staline, comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible, il n'y a qu'à voir agir. Sandy peut voir le moment où la passion se change en possession. Alors, c'est d'autant plus difficile à raisonner que notre civilisation fait un éloge absolument permanent de la passion. Alors que la civilisation, c'est le contraire de la, c'est le contraire du fanatisme.
Tout le début du film, on voit un personnage de civilisé qui est Nikhil, qui est une extrême civilisation, une extrême raffinement.
Mais qui est passionné aussi.
Oui, mais qui est donné d'abord comme civilisé, d'abord comme quelqu'un de raffiné, et l'autre qui est le passionné. Justement, il y a quand même une opposition entre les deux sur ce point-là, entre le raffinement et la passion. Et ce personnage raffiné nous semble quand même bien faible dans le début du film. C'est-à-dire que quand on voit justement la passion, l'emportement, l'aspect viril qu'a Chandip par rapport à Nikhil, qui lui est au contraire complètement fait dans la douceur, il y a quand même une héroïsation du personnage de Chandip qui marche très très bien, je trouve, et qui marche particulièrement bien aux yeux de Bimala.
De Chandip n'existe pas au début du film.
Non, je veux dire à partir de son apparition. Non, je veux dire,
oui, mais
à partir de son apparition, quand il est porté par 12 militants sur leur dos, enfin ce genre de choses.
Justement, c'est ça, et c'est que la passion s'extrait d'une civilisation. Est-ce que c'est la passion qui produit la civilisation ou l'inverse? Vous dites notre civilisation parle de la passion. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du film concrètement, c'est-à-dire comment il se constitue et cet incroyable générique de feu qui embrase l'écran pendant, je dirais bien 5 à 6 minutes, parce que c'est d'abord le feu tout seul, puis les lettres de feu du titre.
Gare Bayrée.
Et puis de nouveau le feu et ce visage étonnant de Bimala en prise de voile, quoi, en femme mariée. Je crois que tout part de là.
Si tu me permets, les deux premiers plans, très précisément, ils sont très passionnants parce que justement, ils annoncent les tout derniers plans de la fin. On voit d'abord Bimala apparemment veuve, enfin en larmes, vêtue de noir, avec un visage véritablement ravagé. Elle a l'air âgée même à ce moment-là. C'est assez étonnant parce que le plan suivant, elle est en mariée et elle a effectivement 10 ans de moins. Ces deux plans qui se succèdent, qui se remplacent l'un l'autre, véritablement, deux visages de la même personne à 10 ans d'écart apparemment. C'est totalement saisissant.
C'est ce qui se passe à la fin d'ailleurs.
C'est ça. Alors, c'est la fin magnifique chose, qui est une succession de plans d'elle, cette fois-là habillée en blanc, en veuve, puisque la couleur du veuvage en Inde est le blanc.
Et donc ça m'a fait réfléchir sur tout simplement le feu, et je me suis dit, je n'ai pas été recherchée sinon dans le livre, quelle pouvait être l'idée des hindous sur le feu, mais je me suis dit tout simplement que le feu c'était chaud, mais que ça brûlait, que le feu ça purifiait, mais que ça dévastait, et j'ai réfléchi au bien et au mal du feu, parce que c'est de cela dont Satyajitra veut parler. Et cela m'a fait penser étrangement à l'espèce, et à ce sublime film d'Hitchcock qui est Pas de printemps pour Marnie qu'on a revu à la télévision et à la façon dont Sean Connery s'intéresse au début du film au grand prédateur et dont il considère que Marnie est un grand prédateur parce que c'est un personnage dévasté qui va être obligé de dévaster. Et finalement, je trouve que la philosophie de Ray est incroyablement... je dirais sage et attentiste et respectueuse des contradictions de l'existence et absolument pas manichéenne. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup les deux articles des Cahiers du cinéma sur le film qui essayent de réintroduire un manichéisme qu'il n'y a pas dans le film. Ray essaye de faire surgir l'idée de la civilisation et l'idée de la passion où elle se trouve et d'où elle se trouve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien et pas de mal, ni qu'il n'est pas mou, ni qu'il est fort sur la longueur, très fort. Sandip est fort dans l'instant et très faible sur la longueur. Il n'y a pas de... Je dirais, les personnages ne se renvoient pas les uns contre les autres, quoi.
Mais d'ailleurs, il y a un truc que je trouve frappant, moi, par rapport à la personne même de Satyajitraï, c'est que quand on le voit, il évoque davantage le personnage qui joue Chandip, c'est-à-dire Soumitra Chatterjee, qui est son acteur fétiche, qui a joué dans tous ses films depuis... un film sur deux depuis 30 ans, il ressemble physiquement, il évoque physiquement Soumitra Chatterjee, le personnage de Chandip, et alors que le discours qu'il peut tenir n'est sans doute pas celui de Chandip, son discours à lui est sans doute plutôt celui de Nikhil. C'est-à-dire qu'à mon avis, tout de même, Satyajitra, je pense, est dans les deux personnages.
Oui, parce qu'on peut aller plus loin pour ce qui est du feu, pour passer des images du début aux images de la fin, puisqu'il s'agit du feu, de toute évidence, tout au long du film.
Absolument, mais tout le film, bon, est, tout le film est de cette couleur-là.
Bon, alors, y a donc l'idée, y a donc l'idée que le feu détruit.
Oui, mais purifie.
Oui, attendez, détruit, mais qu'en même temps, il purifie comment ? En éclairant. C'est-à-dire que la seule vraie différence entre Nikhil et Sandeep à la fin, c'est que des torches d'émeutiers sont dans la campagne et que Sandeep fuit leur lumière et que Nikhil, alors c'est là qu'apparaît la noblesse de toujours. La noblesse, c'est d'aller à la rencontre de la lumière, même si cette lumière doit vous tuer.
Oui, mais depuis le début du film, Nikhil est un personnage. Ça, c'est une chose que Claire Parnet dit très bien dans son bel article sur le film dans l'autre journal. Nikhil devient une âme. Nikhil est un être civilisé. Il faut qu'il finisse comme une civilisation trop élaborée, qui va à sa perte. Nikhil est au bout de son chemin. Son âme va se dégager de son corps. Et d'ailleurs, ne serait-ce que dans le jeu du comédien, qui est relativement figuratif au début, par exemple, quand l'anglaise, il y a une séquence extraordinaire qui dure 3 minutes, quand le professeur anglais de Bimala raconte qu'elle a été attaquée, elles sont assises toutes les deux, Nikhil est derrière elles, et elle raconte son récit, ils sont comme ça, comme au théâtre. C'est fou ce qu'on peut penser à Bergman, de toute façon, dans ce film. Ils sont comme au théâtre, et en même temps, chaque personnage a exactement l'attitude que Ray leur a demandé, c'est-à-dire, elle raconte cette histoire, la tête bandée, Bimala est dans une espèce de pesanteur, d'attente, d'incompréhension, mais en même temps, de contradiction physique, c'est-à-dire quand elle aime cette femme et en même temps elle ne renie pas le geste de ses jeunes compatriotes. Et derrière,
qui ont jeté des pierres sur l'anglaise, oui.
Et en même temps, Nikhil est derrière et il a un jeu très 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 mouvant. Il fait j'ai revu le film là juste avant de venir. Il fait pas des grimaces, mais il y a des mous dans son visage. Il y a une espèce de haine qui plisse son nez, plisse sa bouche. Et petit à petit, le jeu du personnage va devenir de plus en plus épuré et il ne devient qu'une âme. Et l'idée du film, c'est ça, c'est que ce personnage trop civilisé va à sa perte, comme le monde va à sa perte. Ça, c'est pas une phrase de Duras que je renvoie, mais le monde va à sa perte à partir du moment où il se...
Oui, mais c'est une perte.
Il se purifie, il se constitue.
Oui, mais c'est une perte magnifique parce que c'est aussi éperdu.
Ça n'est la perte du corps.
Mais oui, en même temps, il y a l'éperdu. C'est-à-dire que toute l'attitude de Nikhil, quand soudain il comprend que d'une part, il ne peut plus rien contre les entreprises qui vont mettre son domaine à feu et à sang, et par la faute de son ami, qu'il ne chasse pas de sa maison. Et que par-dessus le marché, si j'ose dire, son ami est séduit d'une manière très évidente et très visible sa jeune femme, il a une réaction totalement de sublime, enfin, je veux dire, qui pourrait être une réaction de faiblesse, mais qui est en réalité la vraie réponse de la vraie passion, c'est-à-dire le consentement à sa propre souffrance et à ce que les choses aillent jusqu'à leur terme.
Oui, c'est ce qu'on vient de lire, quoi. C'est la phrase du début.
Absolument.
Je veux que tu ailles jusqu'au centre.
Donc
du monde.
Là, on se trouve devant la. Enfin, vous parlez d'âme. Bon, moi, je dirais que c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez tendance à Caroline, à prendre des références, Bergman, Renoir, etc. Moi, je dirais Truffaut. Par rapport d'un cinéaste, par rapport à lui-même et par rapport à son œuvre, c'est quand Truffaut fait les deux Anglaises après avoir rêvé des deux Anglaises. Depuis qu'il l'a lu, enfin depuis les années 50, depuis donc avant son premier film, éprouve la nécessité intérieure absolument impérieuse de le réaliser un jour. Et quand il le réalise, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont attendu pas autant d'années, mais ils ont laissé passer l'un comme l'autre un temps considérable avant de faire ce film, parce que ce film-là, étant le film de la beauté morale, c'est un film qu'il faut impérieusement faire un jour.
En même temps, ce n'est pas un film à la gloire de la moralité de Nikhil.
Je parle de la beauté.
Oui, mais même de la beauté, parce que Nikhil meurt. et les autres restent en vie, les deux autres restent en vie. Il y a, je crois que c'est un film sur l'effacement de quelque chose qui s'est approché de la perfection. Et c'est vrai que le personnage de Nikhil s'est approché, il n'est pas parfait, il n'y a pas de perfection, mais il s'est approché de la perfection trop, assez pour disparaître et s'effacer. Et il y a ça dans le jeu du comédien, cette sorte d'effacement. Mais les deux autres restent vivants. Et après tout, je pense que Ray, comme Renoir, là, il considère que c'est les vivants qui ont raison. Il y a une chose dont je voudrais parler, c'est cette couleur du feu qui mange le film entièrement. Les vêtements des personnages sont de couleur ocre, orange. La bande de Sandeep est habillée en orange avec une bande rouge. Tous les saris de Bimala sont rouges. Sandeep, lui, est habillé en ocre. Il a une très belle écharpe et Nikhil, un châle ou une écharpe également. Je ne connais pas les mots indiens qui sont oranges. Et ça, je crois que... Satyajit Ray, je sais qu'il est tout à fait obsessionnel, comme Ozul était là-dessus. C'est une chose qu'il a voulu. Il a voulu inscrire son film du côté de cette couleur qui est une couleur chaude, une couleur qui brûle, alors que la couleur froide, les couleurs bleues vont vers le froid, quoi, vont vers une passion esthétique. Là, effectivement, c'est une passion, mais qui n'est pas esthétique, qui est une passion physique et oui, morale. Vous avez raison.
Moi, je voudrais dire un mot sur la perfection dont tu parlais, parce que tout de même, cette perfection, parce qu'effectivement, c'est ça que vise Nikhil, elle est tout de même perverse. C'est-à-dire que si Nikhil meurt à la fin, c'est parce qu'il s'est rendu compte précisément que cette perfection était inatteignable d'une part, mais que d'autre part, la volonté même de cette perfection, il y avait de la perversion dedans. C'est-à-dire que pour pouvoir exister lui en tant qu'homme, il a besoin de se mesurer à l'autre homme qui est son espèce de référence virile qui est Sandeep. Et donc il a besoin que sa femme soit confrontée très directement avec Sandeep pour être sûre que c'est lui qu'elle veut. Alors que la perversion, elle est là pour moi.
N'oublions pas quand même quelque chose, c'est que le film est l'histoire d'un regard. Qui est le nôtre et qui est donc celui de Bimala, c'est-à-dire que il y a le regard de Bimala sur Nikhil, le regard de Bimala sur la maison et sur la famille de Nikhil, sur sa belle-sœur, je crois, qui est là. Il y a le regard de Bimala sur après qu'on lui en ait parlé, dans la plus pure tradition dramatique, qui est qu'on parle longtemps d'un personnage avant de le voir apparaître.
Et quand enfin, même, c'est... on le montre, puisqu'il est sur la cheminée en photo, à côté d'une photo où Bimala et Nikhil sont
donc
ensemble.
Il apparaît, donc on le voit, on voit d'abord Sandeep par les yeux de Bimala, et le regard, notre regard change sur Sandeep, exactement au moment où le regard de Bimala change, c'est-à-dire quand elle a surpris qu'elle a surpris la rapacité de... Pas seulement parce qu'elle sait des choses, elle d'ailleurs... Ce qu'il y a de magnifique, c'est comme dans les deux anglaises, ils vont tous, les trois vont absolument au bout de leur propos et de leur pulsion et enfin à tous les étages de la vie psychologique et morale. Ce sont tous les trois. Un tel film ne peut exister qu'avec des jusqu'au boutistes absolus. Alors le moment où il y a un moment que je trouve extraordinairement, parce que l'intérêt, quand on est dans la salle de projection, l'intérêt pour le film et pour les personnages va croissant, va s'enrichissant. L'émotion elle-même, qui n'est pas une émotion bouleversante la première demi-heure et même la première heure du film, l'émotion devient de plus en plus prenante. On est de plus en plus saisi. Et la surprise prodigieuse, pour moi, enfin, à cet égard, du point de vue de la richesse d'un personnage et de son dessin, c'est les réactions de Sandeep. Lorsque il est découvert, lorsque Bimala le regarde soudain froidement, et puis quand il s'en va, il conserve quelque chose comme de l'élégance, il conserve quelque chose comme de la désinvolture, et donc il conserve quelque chose comme de la sympathie, finalement, venant de nous, à son égard. C'est-à-dire qu'il n'a pas épuisé absolument son crédit. Il y a même une espèce de légèreté soudaine chez lui, alors qu'il a incarné jusque-là, d'une certaine façon, le fanatisme, en tout cas, quelque chose qui y ressemble. Et de ce point de vue-là, le film est admirable, parce que, au fond, c'est l'histoire d'un regard, celui de Bimala, et c'est l'histoire d'une lumière qui se porte, les torches, donc les flammes, le feu éclairant, qui se porte d'une manière très crue sur Sandeep, mais qui tuera Nikhil, parce que trop de lumière. Alors là, en l'occurrence, il mourra de trop de lumière.
Parce que lui voulait s'en approcher plus.
Voilà, c'est ça.
Mais le film est monté comme ça, de séquence à séquence. Par exemple, il y a cette étonnante séquence de la découverte de Sandeep par Bimala. C'est-à-dire que Sandeep arrive porté sur une sorte de chaise à l'indienne par ses supporters. Oui, je pense qu'on
peut
le dire.
Ces militants, oui.
Ces militants, il commence son discours avec une élégance, et d'ailleurs, il est vêtu d'une élégance tout à fait étonnante, d'une étoffe, on se demande si ce n'est pas du cachemire, d'ailleurs. Et à ce moment-là, ça, je trouve ça formidable de la part de Ray, le cinéaste prend, d'une certaine manière, le pouvoir sur ses personnages, parce que c'est lui qui relie Sandeep à Bimala. Et il y a un plan étonnant où la caméra part de Sandeep, et monte et s'arrête derrière les canisses ou les sortes de canisses qui masquent le visage de Bimala. Et le plan d'après, c'est le visage de Bimala rayé par les ombres et qui regarde absolument fasciné le discours et qui écoute le discours de Sandeep. Et bon, cette séquence est très forte et y a d'ailleurs des regards plongeants de Bimala avec des zooms avant de Satyajit Ray. Il accompagne chaque mouvement du cœur de ses personnages. Ça, c'est assez étonnant de la part du cinéaste d'avoir voulu non seulement toucher les corps en tant que cinéaste, mais avoir voulu accompagner les émotions. Et là, il y a quelque chose qu'il y a aussi chez Bergman, et que d'une certaine manière, ces deux grands cinéastes arrivent à intégrer dans leur langage, alors que c'est quelque chose d'étonnamment trivial, c'est les zooms. Il y a énormément de zooms dans ce film qui avancent et qui vont prendre soit une partie du corps, soit le visage, soit d'ailleurs quelquefois une partie de décor et qui sont, je dirais, l'élan du cœur des personnages. Et là, l'élan de Bimala vers Sandeep est réellement filmé. Et après cette séquence qui est très étonnante et très envoûtante, parce que nous aussi, on est fascinés par Sandeep. Y a une séquence dans la chambre de Nikhil et Bimala, où Nikhil se couche. Il a quelque chose d'ailleurs d'un peu, je dirais pas mou, les gens le taxent toujours de mollesse, mais d'un petit peu comme quelqu'un qui se laisse aller. Elle plie des saris, ses gestes sont magnifiques d'ailleurs, et elle chante une chanson en anglais. Et il y a constamment ça dans le film, cette espèce de mise en rapport un petit peu violente, un petit peu trop violente de choses contradictoires. Et on a l'impression qu'à chaque fois, le cinéaste tire parti et tire plaisir de ces contradictions. Je dirais le cinéaste et le cinéma tire parti et plaisir de ces contradictions. Et juste après, Nikhil lui dit « Mais comment tu peux encore, après un discours comme ça, et il y a peut-être un peu d'ironie dans ce qu'il demande, tu peux encore chanter en anglais ?» Et elle dit « Mais que devrais-je chanter ? Mais un de nos chants national. » Et elle se met à ce moment-là à chanter un chant bengali.
Oui, alors, vous avez quand même souligné la chose importante, parce qu'on ne l'a pas dite parce qu'elle allait de soi, mais... C'est très important, d'ailleurs, enfin, c'est même une des choses qui risque d'ailleurs de faire apparaître le film austère, qui risque de décourager. Alors là, vraiment, je souhaite de tout mon cœur que beaucoup de gens aient le désir d'aller voir La Maison et le Monde, mais il faut tout de même dire absolument que Satyajit Ray n'a pris aucune sorte de précaution. De la même façon que Hitchcock, lorsqu'il fait Les Amants du Capricorne, ou Truffaut, lorsqu'il fait Les Deux Anglaises, il s'agit bien d'être à hauteur de d'âme, c'est vrai, oui, il n'y a pas d'autre mot. Donc, de rester dans la maison.
Oui, c'est ça qui est formidable.
De rester dans la maison et de ne voir le monde. Alors ça, Jean-Marie Lecléziot, c'est bien Jean-Marie Lecléziot le soulignait dans son texte publié au moment de Cannes l'année dernière dans l'Observateur. C'est vrai que le monde extérieur ne nous a qui est le deuxième terme du titre ne nous apparaît que par que très peu.
Oui, parce que c'est un film
juste
sur la
quand
pensée.
C'est nécessaire. Oui, c'est
et
ça.
On ne pense bien que quelque part. Et je dirais, ça ne veut pas dire physiquement dans une maison. Ça veut dire qu'on ne pense bien que si on a une tête, que si cette pensée, elle est assise quelque part. Et on ne filme bien que si la caméra est installée quelque part. Il y a cette espèce de sagesse de Ray de montrer ce qu'il doit montrer, ni plus ni moins. Et il n'y a pas, comme dans le salon de musique, une sorte d'embrassement de l'espace. Il y a extrêmement rarement des espaces espaces qui sont montrés dans leur totalité. Le seul espace, même le bureau de Nikhil dans lequel ils se regroupent tous les trois, le seul espace, le seul du film qui est filmé dans sa totalité, c'est le passage. C'est le passage de la maison vers le monde.
C'est le couloir.
Ce moment étonnant qui est d'ailleurs, c'est ces deux couloirs, c'est pas des couloirs en fait, c'est des vérandas.
Il y a un couloir, proprement dit, couloir, et il y a le côté d'un patio.
Oui, c'est ça, et comme un balcon. Et il y a une sorte de ralenti, un imperceptible ralenti qui donne à ce passage quelque chose d'un petit peu plus grave, enfin d'un petit peu plus dangereux, qui ne pourrait l'être à première vue.
Ils apparaissent là, moi j'ai eu l'impression de voir des dieux, un dieu et une déesse indienne apparaissant à ce moment-là, et ce très léger ralenti donne l'impression qu'ils volent, enfin qu'ils marchent sur un nuage pratiquement.
Mais c'est le seul espace qui est embrassé par la caméra, je dirais, embrassé comme le feu embrase quelque chose. Mais sinon, ce ne sont que des parties d'espace.
Mais de la même façon, le feu, on ne peut pas mettre le feu au vent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donc aérer. Donc il faut absolument rester, effectivement, dans ces salons, il faut rester dans ces chambres à coucher, il faut rester dans ces lieux où se déroule réellement, où on peut subir le spectacle et la contemplation des flammes intérieures qui naissent de personnages parlants, enfin de personnages qui dialoguent.
En même temps, les quelques personnages qui s'ajoutent au récit, qui sont le professeur, qui sont le jeune adjoint de Sandeep, ont une force étonnante justement parce qu'ils sont là peu. Et le cinéaste les tient très fort, ça veut dire les dirige très fort. Mais ils ont tout de même une grande existence, une réelle existence. Ce qu'il y a de formidable dans des films comme ça ou dans des romans de ce type, c'est que l'idée qu'on a du personnage, le roman fini, continue d'exister. Non pas le personnage, on s'en échappe malheureusement avec le récit, mais l'idée du personnage, quelque chose du personnage, une élégance, un mot, une idée, et bon, évidemment, en ce qui concerne Tagore et Ray, une philosophie du personnage continue d'exister. C'est là où ces romans ou ces films sont des grands livres ou des grands films.
C'est ça.
Et donc, deviennent, et ça Truffaut en parlait mieux que personne, deviennent et font partie de nous.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une amitié. Il y a quelque chose comme, enfin, quand il avait dit en parlant des films qui ont déterminé sa vocation, comme Citizen Kane et Les Dames du Bois de Boulogne, c'était des films qui devenaient proches et amicaux. Comme des romans.
Qui vous constituent, vous constitue. Mais il y a quelque chose qui m'a bouleversé, moi, dans le film de Satyajit Ray, c'est la petite séquence de la mort de Nikhil. Et je pense qu'il y a, dans la façon dont Satyajit Ray a filmé cela, la même captation du cinéma de Renoir que nous pouvons avoir par rapport à d'autres et qui le constitue lui. C'est-à-dire que vous vous souvenez dans Le Fleuve, cette séquence absolument bouleversante qui est la sortie du petit cercueil de la maison jusqu'au Gange quand ils vont enterrer le petit garçon qui est mort. Et là, la mort de Nikhil, ou en tout cas sa blessure à mort, parce qu'en fait c'est une blessure à mort, nous est annoncée absolument de la même manière. Il n'y a rien, tout ça est vu d'assez loin, de quelqu'un qui s'éloigne.
Dans la nuit ?
Enfin, je ne sais plus.
Je parle de sa mort.
Je n'ose pas le dire. Mais en tout cas, Bimala voit ça de très loin, et elle voit un corps allongé arriver, entouré par des gardes en blanc. Et cela dure, mais c'est imperceptible. C'est-à-dire que c'est encore plus suggéré, peut-être, que la mort du petit garçon dans le film de Renoir. Mais c'est la même façon de signaler la mort, comme quelque chose qui va venir, qui va passer, qui passe, et voilà, qui est passé. Et après, il y a ce visage étonnant de Bimala en veuve qui se transforme, d'ailleurs. Un visage qui se transforme.
Bien, nous sommes arrivés au bout de... À chaque fois qu'on commence une émission de ce genre, je me dis, comment allons-nous parler pendant une heure d'un film? Bon, ça dépend beaucoup du film. Il est évident qu'il y a des films dont nous ne pourrions pas parler pendant une heure. Je crois que de ce film de Satyajit Ray, nous pouvons non seulement en parler entre nous, la preuve est faite, rien n'était préparé, et semble-t-il, tout ce que nous avons dit est assez cohérent. C'est vrai que ces personnages, Nikhil, Bimala, Sandeep, n'ont pas fini de nous habiter.
C'était « La maison et le monde » de Satyajit Ray, un numéro du cinéma des cinéastes avec Claude-Jean Philippe, Pierre Donadieu et Caroline Champetier, une émission diffusée la première fois le 21 avril 1985 sur France Culture.